VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi 8 septembre 2022. Avec vous, Eric Mandakidza, voici d'abord le sommaire. En RDC, 5 civils tués dans une attaque près de la frontière ougandaise. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz recouvre sa liberté après plus d'un an de détention préventive et de contrôle judiciaire pour corruption. Le continent africain subit les pires conséquences du changement climatique. L'Égypte promet de faire entendre la voix de l'Afrique lors de la prochaine conférence mondiale de l'ONU sur le climat. Au Royaume-Uni, les médecins de la reine Elisabeth II sont préoccupés de l'état de santé de la monarque. Des dizaines de Britanniques ou touristes se rassemblent devant le palais de Buckingham à Londres. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Dans l'est de la RDC, 5 civils ont été tués la nuit dernière par des membres du groupe Force démocratique allié au ADF dans une localité près de la frontière avec l'Ouganda, Jini Niwa.
L'attaque de la commune de Bulungo a eu lieu la nuit dernière après les affrontements avec l'armée. Les ADF ont pris la fuite mais ont exécuté 5 otages civils, a déclaré le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée dans la région de Beni. L'officier ajoute que l'armée a neutralisé 2 terroristes et a récupéré une arme de guerre de type AK-47. Lewis Tembo, président de la société civile de Bulungo, précise que 3 civils qui ont été enlevés dans le village voisin de Mayele ont été tués à la machette. Ce dernier massacre a eu lieu non loin d'une position des soldats ougandais, près de la frontière où les armées des 2 pays mènent des opérations conjointes contre les ADF, a regretté M. Tembo. Aussi, les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées en état de siège depuis mai 2021. Présentés par le groupe État islamique comme sa branche en Afrique centrale, les ADF sont accusés d'être à l'origine de plusieurs attaques et enlèvements dans la région.
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a recouvré sa liberté la nuit dernière après plus d'un an de détention préventive. Son contrôle judiciaire a pris fin hier. Le point avec Abdourahmane Dia.
Vers minuit, les policiers ont commencé à lever les barrières disposées autour de son domicile dans la capitale Nouakchott et les agents affectés à son strict contrôle judiciaire ont commencé à s'éloigner. Aziz, âgé de 65 ans, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, est sorti de sa maison pour saluer de la main les quelques personnes venues célébrer sa liberté de mouvement recouvrée. Son contrôle judiciaire a pris fin ce mercredi à minuit et, comme le veut la loi, il est libre de ses mouvements, ce qui ne veut pas dire que son dossier est clos, loin de là, a dit un magistrat du parquet sous le couvert de l'anonymat. L'ex-chef d'État a été inculpé en mars 2021 en même temps qu'une dizaine de hautes personnalités pour des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics, octroi d'avantages indus et obstruction au déroulement de la justice. Il a été placé en détention en juin 2021 pour non-respect des mesures de son contrôle judiciaire et trouble à l'ordre public. Il a été relâché en janvier pour des raisons de santé, mais maintenu sous contrôle judiciaire. Lui et ses défenseurs crient au règlement de compte.
Un haut fonctionnaire de l'ONU prévient que la région du Sahel risque de devenir une crise oubliée en raison de nombreuses urgences dans le monde. Dans un entretien avec VOA, le chef du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du bureau de la coordination des affaires humanitaires indique que 18,6 millions de personnes au Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Niger et Nigeria ont besoin d'une aide pour survivre. Selon lui, près de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère. Génocide au Rwanda, plusieurs parties civiles dont des associations ont fait appel jeudi du non-lieu général ordonné dans l'enquête sur l'inaction rapprochée à l'armée française lors des massacres de Wisesero en juin 1994. Dans cette affaire, les associations Survie, Ibuka, FIDH et 6 rescapés de Wisesero, parties civiles, accusent la mission, l'opération turquoise et la France de complicité de génocide pour avoir, selon eux, sciemment abandonné pendant 3 jours les civils Tutsis réfugiés dans les collines de Wisesero dans l'ouest du Rwanda. L'acheminement routier et aérien de l'aide humanitaire vers la région rebelle du Tigré est totalement interrompu depuis la reprise des combats le 24 août, déplore l'ONU jeudi. La trêve en vigueur depuis fin mars entre forces gouvernementales éthiopiennes et rebelles tigréens avait permis au convoi d'aide, alors à l'arrêt depuis 3 mois, de reprendre la route vers le Tigré. La situation humanitaire générale en Éthiopie continue d'être terrible, déplore l'ONU, avec plus de 20 millions de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire. Le parquet de Tunis a ouvert jeudi une enquête après la mort la veille d'un jeune soupçonné de contrebande de cigarettes par les tirs d'un agent douanier. Ont rapporté les médias. La direction générale de la douane a affirmé de son côté dans un communiqué que l'une de ses patrouilles avait effectué des tirs de sommation en l'air et en direction des pneus du véhicule de contrebande après avoir été la cible de projectiles lancés par une foule de contrebandiers. L'un des membres de cette patrouille a été grièvement blessé à la tête, selon la même source. Les membres de la patrouille ont été placés en garde à vue pour la durée dont l'enquête ouverte par le parquet. En Égypte, la ministre de l'Environnement a déclaré que son pays fera entendre la voix de l'Afrique lors de la prochaine conférence mondiale de l'ONU sur le climat et appellera au respect de l'accord de Paris. Yasmine Fouad indique que le Caire représentera le continent africain et ses besoins de manière claire et explicite à la COP27 prévue en novembre à Sharm el-Sheikh, la station balnéaire sur la mer Rouge. Si l'Afrique subit la majorité des conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse et les inondations, ce continent émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2, selon l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui s'exprimait cette semaine lors d'un sommet aux Pays-Bas destiné à soutenir l'Afrique face au changement climatique. Le président d'exercice de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, avait relevé avec amertume l'absence de dirigeants des pays industrialisés à Rotterdam.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La reine Elisabeth II n'est plus, elle est décédée à l'âge de 96 ans. Son fils Charles devient automatiquement roi. Pendant la journée, ses médecins s'étaient dit préoccupés par son état de santé et le prince William, numéro 2 dans l'ordre de succession à Elisabeth II, était arrivé avec plusieurs membres de la famille royale de château de Balmore en Écosse où se trouvait la reine. Les médecins avaient recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale. La monarque de 96 ans, dont le Royaume-Uni a fêté en juin les 70 ans de règne, avait vu sa santé se dégrader. Nous allons y revenir dans nos éditions ultérieures. Le président américain, lors d'un entretien jeudi avec plusieurs dirigeants, dont la première ministre britannique Liz Truss, avait fait savoir à cette dernière qu'il pensait beaucoup à la reine et au peuple du Royaume-Uni. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a salué jeudi depuis Kiev les progrès clairs et réels de la contre-offensive de l'armée ukrainienne visant à reprendre des territoires contrôlés par les forces russes. Il a évoqué une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins pour faire face à la Russie. Mohamedou Onfa.
Le président ukrainien a remercié jeudi à Kiev le secrétaire d'État américain pour une nouvelle aide militaire des États-Unis, assurant que celle-ci allait permettre la reconquête des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Ce sont des signaux très importants pour nous. Il s'agit de la garantie que nous pouvons reprendre nos terres, a dit Volodymyr Zelensky en recevant Anthony Blinken au moment où l'armée ukrainienne revendique des succès sur plusieurs fronts face aux forces russes. Le chef de la diplomatie américaine a fait le voyage en secret, sa seconde visite à Kiev depuis le début de l'invasion russe. Il arrive au moment où Washington met à disposition une nouvelle tranche de 675 millions d'aides directes et 2 milliards de prêts et de subsides pour l'achat d'armes américaines pour l'Ukraine et 18 de ses voisins. Un peu plus tôt, depuis une base américaine en Allemagne, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, avait annoncé cette aide de 675 millions de dollars à l'Ukraine en livraison d'armement, de munitions et de systèmes d'artillerie.
L'armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir repris plus de 20 localités contrôlées par Moscou dans la région de Kharkiv, dans le nord-est. Les unités militaires ont pénétré les défenses ennemies sur une profondeur de 50 km, a indiqué lors d'une conférence de presse un haut responsable de l'état-major ukrainien. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Mohamedou Oufa dans sa minute écho.
L'acheminement routier et aérien de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie, notamment vers la région du Tigré, est totalement interrompu depuis la reprise des combats le 24 août, déplore l'ONU. L'insécurité alimentaire s'aggrave à travers le pays, s'alarme aussi l'ONU, soulignant que des prévisions de pluie sous la normale pour la prochaine saison, ajoutées aux violences et aux inondations, devraient dégrader davantage la situation. La Tunisie est confrontée à des pénuries de plusieurs produits de première nécessité depuis plusieurs semaines. Fin août, le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a imputé ces pénuries à des perturbations des chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix et des coûts du transport au niveau mondial. Mais selon certains économistes, cette crise est surtout due aux problèmes financiers de l'État tunisien et ses faibles réserves de devises. Les autorités égyptiennes ont décidé mercredi de délivrer des licences obligeant les plateformes de streaming à respecter les normes et valeurs sociales de ce pays à majorité musulmane. Des règles de régulation et des licences pour les plateformes telles que Netflix et Disney seront mises en place, incluant leur engagement à respecter les normes et valeurs sociétales de l'État, a indiqué le Conseil suprême égyptien de régulation des médias dans un communiqué.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien, le trophée de la Coupe du Monde est arrivé à Dakar au Sénégal.
Oui, à 2 mois de la compétition au Qatar, l'ancien international français David Trezeguet a dévoilé ce trophée du mondial aux supporters sénégalais venus nombreux l'accueillir. Il a été exposé au Grand Théâtre de Dakar dans le cadre de la tournée organisée par la FIFA. Après avoir remporté la CAN en février, les supporters sénégalais estiment que les Lions de la Teranga ont toutes les chances de sortir vainqueurs de cette 22e édition du Mondial au Qatar. C'est le cas de Alioune Ngom.
On souhaite d'y aller au Qatar, gagner pour la première fois un pays africain peut gagner la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, nous souhaitons qu'il sera la bonne au mois de décembre. On gagne le trophée. On peut le gagner.
Cet espoir est partagé par le ministre sénégalais des Sports, Matara Ba.
Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas mettre la pression sur mon ami et frère, le président Augustin Senghor, mais il sait déjà que la première nation sénégalaise, l'équipe 18e mondiale, n'a pas de choix que d'aller jusqu'au bout de la compétition. Nous devons garder ce trophée, le trophée qu'on est en train de regarder.
Matara Ba, ministre sénégalais des Sports.
Yacouba, quelques résultats des matchs d'hier en Ligue des Champions en Europe.
Oui, l'Ivoirien Eric Bailly et l'Olympique de Marseille se sont inclinés 2-0 sur le terrain de Tottenham du Malien Yves Bissouma. Antoine Griezmann a offert un premier succès à la dernière seconde à l'Atlético Madrid qui s'est imposé 2-1 face au FC Porto. Les choses se compliquent davantage pour Liverpool. Le Guinéen Naby Keïta et l'Égyptien Mohamed Salah et leur équipier se sont inclinés 4-1 devant Naples du Camerounais Franck Zambo Anguissa, buteur. L'attaquant nigérien du Napoli, Victor Osimhen, a manqué un penalty. Belle opération par contre pour le Bayern Munich de Sadio Mané, vainqueur de l'Inter Milan 2-0, 5-1 pour le FC Barcelone devant Victoria Plzeň, dont un but de l'Ivoirien Franck Kessier, nouvellement transféré au Barça.
Tennis avec le tournoi de l'US Open qui se poursuit à New York.
La Tunisienne Hans Jaber, 5e mondiale et finaliste du dernier Wimbledon, tente ce jeudi de se hisser pour la 2e fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Pour cela, il faudra battre la Française Caroline Garcia. Chez les hommes, les demi-finales se jouent demain vendredi et le tableau des oppositions affiche complet. L'Espagnol Carlos Alcaraz, quatrième mondial, s'est qualifié la nuit dernière pour sa première demi-finale de Grand Chelem aux dépens de l'Italien Jannik Sinner. À 19 ans, Alcaraz affrontera demain l'Américain Francis Tiafoe pour tenter de se hisser en finale et espérer devenir numéro 1 mondial lundi. L'autre demi-finale opposera le Norvégien Casper Ruud au Russe Karen Khachanov.
C'était les sports avec Yacouba Ouédraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza de retour avec vous. Place au dossier du jour. Au Burundi, remise et reprise ce jeudi après-midi entre le Premier ministre sortant et entrant au palais présidentiel Ntare House, situé dans le quartier de Gasenyi, au nord de Bujumbura. Entre-temps, plusieurs habitants de la capitale se disent satisfaits de la mesure du président de la République de limoger l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Wunyoni.
Une journée après l'approbation du lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha par les parlementaires burundais, les membres du parti présidentiel enchaînent les réunions d'explication. La population vague normalement et calmement ses activités quotidiennes. Certains habitants de la capitale économique n'ont pas caché leur joie après le limogeage d'Alain Guillaume Wunyoni. Cet habitant propriétaire de plusieurs champs de riz et de haricots ne cache pas sa joie après le limogeage de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Wunyoni.
Nous avons pris positivement ce changement de Premier ministre, mais attendons voir où les choses vont dans un avenir proche et que par après, nous puissions avoir du travail. Nous sommes tous jeunes, nous n'avons pas de travail, nous continuons à chercher. Ce sont seulement les vieux qui ont du travail. Nous, les jeunes, on reste à la maison.
Cet autre habitant, le quartier UP de Kirili à Bujumbura, la trentaine, indique que ce changement de poste était prévisible après les récents discours du numéro 1 burundais, Évariste Ndayishimiye.
Ça fait quelques semaines que M. le Président de la République parlait qu'il y avait un problème, qu'il y avait des gens dans le gouvernement qui sont en train de bloquer ces initiatives. Donc, c'était prévisible qu'il doit y avoir un changement. J'ai pas été étonné de voir ce changement. Ce que nous attendons, c'est la suite. Nous attendons les résultats du changement. Et sinon, pour le moment, on peut pas dire qu'on s'attend à ceci ou cela. On s'attend seulement au changement parce que on a changé le Premier ministre. Nous attendons bientôt la nomination du nouveau gouvernement.
Une des figures de la société civile en exil, Pacifique Nina Azoué, a dénoncé sur Twitter la nomination de Gervais Ndirakobucha, considéré comme un dur du système. Après ce changement de Premier ministre, il a indiqué que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Le nouveau Premier ministre, ancien maquisard entre 1993 et 2003, a acquis son surnom de Ndakugarika, qui signifie littéralement, je cite, « Je vais t'étendre Redmore », fin de citation en kirundi, la langue nationale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Tchad, sévère mise en garde du président du Conseil militaire de transition à ceux qui pensent à diviser le pays pendant cette période de transition. Au cours d'un dîner qu'il a offert aux politico-militaires signataires de l'accord de Doha ce week-end à N'Djamena, en marge du dialogue national inclusif et souverain, le général Mahamat Idriss Déby a promis de régler les comptes à ceux qui refuseraient de rejoindre les rangs. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Le Tchad est uni et indivisible. Il n'y aura jamais ni de Tchad ni de peuple tchadien.
Le général Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, s'adressait aux politico-militaires signataires de l'accord de Doha.
Nous serons sans pitié face à toute tentative de division, de quelconque nature que ce soit et d'où qu'elle vienne.
Pour Dr Sitak Yumbatina Beni, ancien chercheur à l'École nationale d'administration, cette déclaration elle-même est divisionniste et donc une fuite en avant.
Les actes qu'il pose tous les jours dans les nominations à des responsabilités civiles et même politiques, diplomatiques et surtout militaires. C'est des nominations tribalistes, claniques, régionalistes. Prenez, n'est-ce pas, les ambassadeurs, mais c'est des mêmes personnes, c'est peut-être la même famille. Prenez, n'est-ce pas, la chaîne de commandement aujourd'hui, par exemple. C'est pas étonnant de voir de la tête jusqu'en bas, n'est-ce pas, la même famille. Et donc, ces nominations continuent et ils les signent matin, midi, soir.
Le général poursuit sa menace en accusant indirectement les leaders du parti Les Transformateurs et les invite à rejoindre le dialogue national.
Attention à ces officines étrangères et à ces divisionnistes tchadiens qui rêvent de compromettre l'unicité du peuple tchadien et de disloquer l'unicité de la République du Tchad. Ceci est une ligne rouge.
Réaction du président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra.
La ligne rouge, c'est bien ce traitement inhumain et barbare. La ligne rouge, c'est cet apartheid des deux Tchad qu'ils ont méthodiquement installé. Nous arrivons au temps de clarification pour tout le monde et après la clarification, c'est soit la réunification, soit la rupture. Nous allons mettre fin à ce système d'injustice et d'apartheid car la ligne verte de notre peuple, c'est bien le pont à double voie de justice et égalité. C'est bien la dernière chance et si la justice et l'égalité ne reviennent pas, il y aura plusieurs Tchad à diriger et toutes les options sont bel et bien sur la table.
Le général Mahamat Idriss Déby se veut rassurant, disant que le CMT n'entend pas verser le sang de Tchadiens, mais plaide pour le retour à l'ordre constitutionnel de façon apaisée.
Nous n'avons pas versé une seule goutte de sang de Tchadiens. Nous n'avons pas l'intention de verser le moindre sang au sortir de cette transition inclusive et exemplaire. Nous avons la ferme conviction qu'il est tout à fait possible de parvenir à la normalité constitutionnelle dans la paix, la sérénité et l'harmonie.
Dr Sitaki Yombatina Beni estime qu'en 16 mois, il y a eu plus de morts que les années précédentes.
Dans les crises agriculteurs-éleveurs, il y a eu beaucoup de tueries pour rien. Rien que la date du 27 avril, il y a eu 17 personnes assassinées comme ça. Mais tout ça, c'est sous le règne du CMP, non? Il a même promis que lumière sera faite et que justement, les gens seront arrêtés. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien.
En attendant, les participants au dialogue national ont formé 5 commissions thématiques pour redessiner l'avenir du Tchad. André Kordoma Dingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
À la frontière entre le Cameroun et le Tchad, des centaines de camionneurs ont cessé de travailler pour protester contre l'interdiction des poids lourds sur la principale route vers le Tchad, un pays qui dépend du Cameroun pour 80% de ses importations. Les autorités camerounaises affirment que cette route est en si mauvais état qu'elle ne peut supporter le poids des gros camions. Les entreprises de transport estiment pour leur part que passer à des camions plus petits est trop coûteux. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, le récit de Lionel Runanira Gahima.
Les camionneurs transportant de la nourriture et de l'aide humanitaire sont mécontents de ce qu'ils appellent le refus du Cameroun de réparer la route entre l'extrême nord du Cameroun et le Tchad. C'est la principale route utilisée pour transporter des marchandises du port de Douala au Cameroun jusqu'en N'Djamena, la capitale du Tchad enclavée. Ahmad Youssouf, président du syndicat de transporteurs routiers, affirme que plusieurs centaines de camions sont immobilisés au Cameroun et au Tchad à la suite du mot d'ordre lancé par leur syndicat. Il s'est exprimé mardi par WhatsApp depuis Dabanga, à environ 70 km de la frontière avec le Tchad.
La situation est très très compliquée. Nous avons des centaines de camions garés entre Mora, Dabanga et Kousseri depuis des jours et des semaines. Nous exigeons des réparations sur cette route très importante pour nous. Si cette route n'est pas réparée, les pertes seront trop grandes. Certaines marchandises ont des dates de péremption.
Selon Youssouf, les denrées périssables et les fournitures médicales qui doivent être stockées à des températures particulières sont exposées. Les affaires sont au point mort avec l'immobilisation des camions. La principale route vers le Tchad s'est fortement détériorée, provoquant des accidents et des dégâts. Le Cameroun a donc ordonné aux camionneurs de décharger et d'utiliser des véhicules plus légers pour transporter les marchandises vers N'Djamena. Mais les chauffeurs estiment que le recours à des petits camions est beaucoup plus coûteux et prend plus de temps. Guy Ondoa Amougou est le délégué régional des travaux publics de l'extrême nord du Cameroun.
Nous sommes en train de contractualiser encore la même entreprise pour faire les 25 km jusqu'à Tchakamari, en attendant que l'accord de paix soit signé avec la Banque mondiale qui va reprendre tout le projet jusqu'à Kousséri. Il fallait faire 9 passages de bus avec un dalle double. Donc on est en train de reconstituer les coups de chaussée. Nous sommes à la première phase de la fondation.
Cependant, Guy Ondoa Mougou n'a pas précisé quand le Cameroun comptait achever les réparations ni où en sont les négociations avec la Banque mondiale pour financer la construction. En attendant, les livraisons sont au ralenti au Tchad et les prix des denrées alimentaires, comme le riz, la farine et l'huile végétale, ont augmenté. Ali Djiba est le porte-parole de l'Association des consommateurs du Tchad.
Et la population se plaint parce que les routes sont mauvaises. Et à cause de manque de routes, il y a des marchandises qui n'arrivent pas à sortir en ville. Donc il faut quand même que l'État voit ce qu'il peut faire par rapport aux routes. Les prix du marché sont devenus excessivement chers. La population n'arrive plus à vivre par rapport à l'augmentation des prix au marché. Le prix des transports a augmenté et la population n'arrive plus à vivre.
Pourtant, au mois de mai, la télévision nationale camerounaise avait rapporté que la Banque mondiale avait approuvé un prêt de 538 millions de dollars pour améliorer les infrastructures routières et ferroviaires entre Douala et N'Djamena au cours de 3 prochaines années. Depuis l'enlèvement de 10 ingénieurs chinois par Boko Haram sur le chantier routier, l'entreprise chinoise chargée de travaux a plié bagage. Le gouvernement assure que les ingénieurs militaires camerounais ont pris le relais, mais la route n'est toujours pas praticable.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une note sportive pour nous permettre de parler de tennis. Le tournoi de l'US Open est entré dans sa dernière semaine à New York. À quelques kilomètres du stade Arthur Ashe se trouve une communauté de joueurs de tennis qui ne reçoit peut-être pas l'attention de l'Open, mais qui partage un dévouement et un engagement similaire pour cette discipline. Le reportage d'Aaron Ranen est repris par Yacouba Ouedraogo.
Chaque été, pendant 3 semaines, le monde du tennis d'élite se réunit à Flushing à New York pour l'US Open. À quelques kilomètres de là se trouvent les terrains du tennis du Lincoln Terrace Park où des joueurs, pour la plupart africains-américains, développent leurs compétences à l'ombre de l'un des 4 tournois du Grand Chelem. Depuis les années 1960, ces 11 cours de tennis ont été un sanctuaire contre le racisme et une opportunité pour les africains-américains de construire une communauté de passionnés de tennis. Joanne Gordon, joueuse de tennis au Lincoln Terrace Park Tennis Court.
This is a social community.
C'est une communauté sociale, donc nous aimons parler. Nous apportons de la nourriture et nous nous asseyons là-bas, sur les gradins. Nous socialisons et jouons au tennis. Pour moi, c'est comme à la maison.
Jolene Taylor est aussi une joueuse de tennis.
Je viens ici depuis quelques années. J'adore la communauté. J'aime pouvoir voir des gens qui me ressemblent. La représentation est excellente.
Ces joueurs s'affrontent sur des terrains accidentés avec une ligne de métro qui passe juste à côté, perturbant leur concentration. Nous sommes un samedi après-midi. Une douzaine de personnes tapent sur des balles de tennis sous un soleil brûlant. Eric Jordan est un habitué des lieux.
Avant ma naissance, ces terrains étaient là. C'est comme un incontournable coin du quartier. Je suppose que dans les jours qui ont précédé mon époque, quand j'étais plus jeune, c'était l'un des endroits où beaucoup d'Africains-Américains pouvaient jouer et se sentir en sécurité sans être discriminés.
Des communautés de tennis comme celle-ci ont été inspirées il y a plus d'un demi-siècle par certains des premiers champions de tennis africains-américains, dont la championne de l'US Open 1957, Althea Gibson. Une référence pour Joanne Gordon.
Althea et Arthur Ashe. Althea d'abord parce qu'elle est venue avant Arthur Ashe. Et ils ont ouvert le monde du tennis au noir, leur montrant qu'ils peuvent le faire. Et deux sont venus, Serena et Vénus.
Daniel Kelly Tou est de l'Institut Tisch pour le sport mondial.
Le succès d'Althea Gibson a ouvert des portes à l'Académie de tennis de Lincoln Terrace pour ouvrir des opportunités aux jeunes Africains et Américains, mais surtout pour qu'ils voient cela comme une possibilité de faire carrière.
Beaucoup attribuent aussi à Serena et Venus Williams le mérite de faire rebondir les balles sur ces terrains.
C'est le cas d'Eric Jordan.
Avant Serena et Venus, cet endroit existait. C'était toujours génial, mais apparaissant sur la photo comme étant devenues des grandes joueuses de tennis, cela a aidé ce quartier et la communauté du tennis. Elle et sa sœur ont contribué à populariser le tennis et à l'amener à un autre niveau.
Serena Williams avait annoncé sa retraite après l'US Open de cette année. Ici, l'on se demande si la prochaine superstar du tennis africain-américain ne viendra pas de ses terrains de tennis de Lincoln's Terrace Park.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la présentation, Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.